Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Alors, pour parler de cette situation des oies cendrées, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau cette semaine Pierre Rigaud. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Pierre, vous êtes naturaliste, vous connaissez très très bien ce sujet. Les oies cendrées ont suscité un véritable débat puisque le gouvernement français souhaitait prolonger la période de chasse autorisée de ces oies cendrées jusqu'à fin février. Finalement, les associations de protection animale, la LPO en tête, ont obtenu gain de cause et cette chasse est interdite. C'est arrêté dans les périodes qui étaient normalement autorisées, c'est bien cela ?
En fait, la chasse des oies est autorisée depuis le mois d'août jusqu'au mois de janvier et l'État voulait prolonger en février et c'est cette prolongation qui a été suspendue il y a quelques jours par les tribunaux.
Pourquoi l'État voulait-il prolonger cette période de chasse d'un mois ?
En réalité, il n'y a pas vraiment de raison si ce n'est permettre aux chasseurs de chasser un mois de plus tout simplement. Hein. C'est vraiment sous la pression de certains chasseurs que cette prolongation chaque année est faite par les ministères de l'écologie et chaque année les associations de protection des animaux et de la nature
doivent combattre.
Voilà, absolument. Parce que tout simplement, cette prolongation est illégale par rapport à la réglementation européenne. Parce que les oies cendrées à partir de fin janvier commencent à reprendre leur migration pour retourner vers la Scandinavie où elles vont se reproduire. Or, en Europe, il est interdit de chasser les oiseaux pendant leur migration de retour vers leur quartier de reproduction.
D'ailleurs, la LPO a eu gain de cause, hein, je crois, une dizaine de fois devant le Conseil d'État contre toutes les tentatives précédentes d'allongement de cette période de chasse. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, ça va s'arrêter un jour, puisque à chaque fois, il y a des tentatives et puis finalement, ça échoue. Non, là, cette année, le gouvernement a annoncé, a utilisé une sorte de prétexte, disons que finalement, ces oies cendrées créent des nuisances. C'est quoi les nuisances en question ?
Oui, alors c'est un peu la nouveauté dans l'argumentation des ministères. Les nuisances, on accuse les oies de causer des dommages, notamment aux cultures agricoles, ou de causer des dommages, par exemple, des troubles sur les aéroports et notamment aux Pays-Bas. Or, il se trouve que les oies cendrées qui passent l'hiver en France ou en Espagne et qui remontent en traversant la France au mois de février ne sont pas les mêmes que les oies cendrées qui vivent aux Pays-Bas et qui, elles, sont sédentaires. Nos oies, entre guillemets, elles font que traverser les Pays-Bas pour aller se reproduire en Scandinavie. Donc, l'argument selon lequel les oies causent des problèmes sur les aéroports, notamment aux Pays-Bas, est absolument invalide puisque ce ne sont pas les mêmes oies, tout simplement.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la situation de ces oies cendrées ? Alors, on ne va pas faire un débat de chiffres parce qu'il y a les chiffres du gouvernement et il y a les chiffres des associations de protection animale qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais grosso modo, est-ce que ces oies cendrées se portent bien aujourd'hui ?
Oui, absolument. Les populations d'oies cendrées, c'est une chance, sont en croissance depuis pas mal d'années, donc on peut s'en réjouir du fait que ce sont des oiseaux qui étaient autrefois très rares et qui deviennent presque communs aujourd'hui. Malheureusement, dès que des oiseaux sont communs ou redeviennent communs, on a tendance à confondre ça avec une espèce de pullulation ou de prolifération, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et les oies cendrées, en plus de la réalité concrète et biologique, c'est vraiment, à mon avis, d'ailleurs, tout notre imaginaire, parce que ce sont les oies sauvages qui volent en V, c'est Nils Holgersson sur son oie qui traverse la Suède, enfin, c'est tout cet imaginaire aussi. Et les oies cendrées en France sont finalement pas si nombreuses que ça, on parle de quelques milliers d'individus, hein, sans aller dans le détail, donc c'est pas non plus...
On les trouve où ? Expliquez-nous un peu comment elles vivent, ces oies cendrées.
Alors, elles sont assez fidèles, elles vivent en couple et elles se reproduisent donc... dans plusieurs régions d'Europe de l'Ouest et notamment pour ce qui nous concerne en Norvège. Et ensuite, elles partent passer l'hiver soit en France, soit en Espagne, surtout sur le littoral, mais pas seulement. Alors, elles aiment bien les endroits un petit peu espacés, dégagés. Et ce sont en fait pas seulement des oiseaux aquatiques, c'est un petit peu des tondeuses sur pattes, faut bien dire. Et c'est pour ça aussi que des fois, on les accuse un peu de...
Elles ont mauvaise réputation auprès des cultures.
Oui, parce que ce sont des oiseaux herbivores qui ont un bec assez adapté au fait de brouter, tout simplement. Ouais. Donc, c'est vraiment des brouteuses et elles vont comme ça passer la tondeuse sur les prairies en bord des milieux aquatiques. Donc, elles vivent surtout sur les littoraux ou au bord des lacs, mais pas seulement. On peut voir des oies cendrées passer en migration dans n'importe où en France.
Et comment se fait-il que les chasseurs s'intéressent particulièrement à ces oies cendrées ? Enfin, les espèces chassées sont très nombreuses. Pourquoi chaque année revenir à la charge pour essayer de chasser davantage ces oies ?
Ah, je pense que je ne suis pas chasseur, vous l'aurez compris, mais je pense que de leur côté...
On l'avait bien imaginé, Pierre.
Il y a aussi un imaginaire, les oies sauvages, la migration des canards et des oies, ça intéresse aussi beaucoup les chasseurs. On parle là des oies cendrées, mais il y a en fait beaucoup d'espèces différentes. Il y a d'autres oies d'ailleurs et de canards sauvages auxquels s'intéressent beaucoup les chasseurs. De leur côté, c'est surtout la chasse à la hutte ou au gabion ou à la tonne. C'est les différentes appellations de ce mode de chasse qui concernent les oies, à savoir des sortes de cabanons à moitié enterrés sur les bords des étangs ou même immergés dans l'eau. Et les chasseurs se chassent là-dedans pour tirer sur les oies qui se posent ou les canards à la tombée de la nuit. Donc c'est une chasse très particulière qui se pratique après la tombée de la nuit. D'ailleurs, ce qui rend très difficile l'identification de ces oiseaux, parce qu'entre une oie cendrée qui peut être chassée et d'autres oies, les oies rieuses, les oies des moissons qui ressemblent beaucoup et dont les périodes de chasse ne sont pas exactement les mêmes ou parfois qui ne peuvent pas être chassées, c'est très difficile de faire la distinction.
Est-ce qu'il y a des oies justement qui sont totalement protégées, qu'on ne peut pas du tout chasser ?
Il y a des oies qui ne font pas partie des oies grises, donc les oies cendrées avec les oies des moissons, les oies rieuses sont les oies grises et d'ailleurs font partie des ancêtres des oies domestiques, des oies de basse-cour qui ont un petit peu la même allure grise. Par contre, il y a des oies comme les bernaches cravants, les bernaches nonnettes qui sont un petit peu plus petites et qui ne sont pas vraiment grises et qui sont noires et blanches. Et qui aussi hivernent sur le littoral français, qui, elles, ne font pas l'objet du tout des mêmes chasses.
On prend la direction de Cahors. Marielle a composé le 0826-300-300. Bonjour Marielle.
Oui, je vous remercie de...
Bonjour Marielle.
Je vous remercie de m'accueillir. Bonjour. J'appelle pour les oies cendrées. Je félicite déjà la LPO énormément parce que ça me tient à cœur. Et notamment pour vous signaler que moi, je suis dans le MK. J'ai quand même un hectare autour de chez moi, mais j'ai des palombes qui sont pourchassées là autour de ma maison, des chevreuils. Et donc, ça me...
Ça vous fend le cœur ?
Ça me fend le cœur, tout à fait. Comme on dit à Marseille.
Merci beaucoup Marielle pour votre témoignage.
Difficile. J'ai des palombes, pardon de vous interrompre. J'ai des palombes qui sont enfermées là toute l'année chez des voisins dans une espèce de cage grillagée. Bon, alors je devais déjà le signaler. Je n'aime pas dénoncer, mais elles sont. Elles sont enfermées, quoi, avec ces chaleurs, ça me fend le cœur encore, énormément.
On a bien compris votre message, Marielle. Merci d'avoir témoigné au Standard de Sud Radio. Vous avez composé le 0826-300-300. Pierre Rigaud, c'est difficile de concilier la chasse d'un côté, qui peut parfois être nécessaire pour réguler certaines espèces animales.
Ça se discute.
Et puis, je me fais aussi l'avocat de tous les auditeurs de Sud Radio. Et puis, la préservation des espèces sauvages. Est-ce qu'il y a des contrôles, par exemple, sur ces oies cendrées ? Est-ce qu'on sait combien sont prélevées chaque année ? Est-ce qu'on est capable de quantifier le nombre d'animaux tués ?
C'est un grand problème de la chasse, pas seulement des oies cendrées, mais de la chasse en général. C'est que les chasseurs n'ont pas l'obligation, sauf cas particulier, de dire combien d'animaux précisément ils ont tués. Donc, on a des estimations. On ne sait par exemple qu'environ 10 000 oies cendrées sont tuées pendant la période entre guillemets ordinaire de chasse de septembre à janvier. Et pour ce qui concerne le détail, on ne sait pas bien, et même souvent les chasseurs ne savent pas vraiment déclarer s'il s'agit précisément d'oies cendrées ou d'oies rieuses, d'oies des moissons dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une des difficultés en fait. Après, le problème entre guillemets de la cohabitation entre des pratiques comme la chasse des oies cendrées et les autres se pose toujours parce que faut bien dire que franchement, les chasseurs demandent toujours plus à chasser. Par exemple, là, il y a quand même 6 mois quasiment de chasse d'oies cendrées.
Oui,
les chasseurs veulent encore un mois de plus.
La parfaite illustration.
Absolument. D'où les difficultés de cohabitation, d'où les difficultés pour, d'ailleurs, les gouvernements, quels qu'ils soient, parce que ça fait 10 ans que ça dure, quelles que soient les personnes en place, de respecter la réglementation européenne, tout simplement. Et d'où le fait que des associations de protection de la nature doivent dépenser de l'énergie, de l'argent et du temps pour simplement demander aux gouvernants de respecter la loi, tout simplement.
Comment ça se passe dans les autres pays européens qui sont concernés par ces espèces ?
Il y a beaucoup moins de chasseurs proportionnellement à la population générale pour la plupart des pays européens. Ce n'est pas le cas pour tous les pays, mais pour la plupart. Et il y a beaucoup moins de pression politique. Donc la chasse existe aussi. Mais par exemple, en Espagne, les oies cendrées ne sont pas chassées. Donc ce sont les oies qui traversent pour l'essentiel la France en février, proviennent d'Espagne. Il y a des pays du nord où elles sont chassées. Il y a des pays qui accueille beaucoup plus d'oies en France parce que les oies sont tout simplement mieux acceptées, mieux accueillies. Donc il y a des situations très différentes, mais la pression des chasseurs en France sur le plan politique, elle est particulièrement forte.
Quand vous dites mieux accueillis, de quelle manière on peut finalement favoriser l'arrivée de ces oies sur notre territoire, hein ?
Alors, elles ne demandent pas grand-chose, si ce n'est qu'on leur laisse un petit peu de place. Et d'ailleurs, les oies cendrées, il faut quand même se réjouir du fait que la population d'oies cendrées augmente et que donc c'est plutôt une réussite dans le sens où simplement le fait de quand même pas tirer dessus de façon illimitée et indéfinie, ça permet que ces oies se reproduisent donc ailleurs, parce qu'elles se reproduisent un tout petit peu en France, et ça permet qu'elles s'installent par-ci, par-là, et notamment maintenant, on voit quand même des oies cendrées se reproduire dans plusieurs départements, dans une vingtaine ou une trentaine de départements français. Donc mieux les accueillir, c'est simplement les laisser un petit peu tranquilles, elles ne demandent pas plus que ça.
Hein. Elles se reproduisent où, à quel endroit, comment ça se passe, est-ce qu'elles font des nids au sol, expliquez-nous un peu.
Oui, alors elles vivent au sol, ce sont des animaux qui ont besoin de voir loin pour voir venir leurs prédateurs. C'est des grands oiseaux, 3-4 kilos. Pour un oiseau, c'est beaucoup. Tout le monde a en tête l'image d'une oie de basse-cour. C'est un petit peu ça, quand même, en plus léger pour les oies sauvages. Mais ce sont des oiseaux qui vivent donc en couple et font leur nid au sol, simplement en se faisant toute petite cuvette. Et puis, les jeunes oies, qu'on appelle les oisons, sont ce qu'on appelle nidifuges. Ça veut dire que dès qu'ils sont nés, quasiment, ils sont emplumés et ils peuvent aller gambader. C'est le propre de beaucoup d'oiseaux qui nichent au sol, contrairement aux oiseaux qui nichent dans les arbres et dont les poussins restent très fragiles et complètement dépendants. Là, les jeunes oies suivent leurs parents, en fait, pendant quelques semaines, quelques mois. Et la petite famille vit comme ça avant qu'elles partent en migration, parce que la plupart des oies cendrées sont migratrices. Donc, elles ont ensuite quand même plusieurs milliers de kilomètres à faire.
Et comment se passe leur migration ?
Alors, la migration, elles partent avec ces fameux vols en V que tout le monde a déjà vu, au moins dans l'imagerie collective.
C'est vrai que quand on pense aux oies cendrées, on pense à ce vol en V.
Et oui, ce qui est très pratique, simplement sur un plan aérodynamique, parce que celle qui est devant, c'est elle qui a le plus de résistance à l'air. Donc, c'est comme les cyclistes autour de France, on les voit qui font des rotations. Ouais. Là, celui qui est en tête du groupe, il passe derrière. Ben, c'est exactement, en fait, ça a été
copié. Très structuré, hein, finalement, très organisé.
Oui, il y a une sorte de rotation comme ça. Celui qui est en tête à la pointe du V, enfin, celle, l'oie qui est en tête du V, change régulièrement. Et elle parcourt comme ça des milliers de kilomètres, à la fois jour et nuit, pour aller dans les quartiers d'hiver qu'elles connaissent, et leur chemin...
Elle retourne toujours au même endroit ?
Dans les mêmes secteurs, oui. Alors ça change au fil des décennies, au fil des générations, mais grosso modo, c'est les mêmes trajets. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'elles sont attendues par les chasseurs chaque année au même endroit.
Bien sûr. Merci beaucoup Pierre Rigaud pour toutes ces explications.